RFI.
Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. C'est à suivre sur RFI. Appel sur l'actualité. Et c'est avec vous, Juan Gomez. Bonne journée.
Bonne journée à vous, Raphaël Delvolvé. Restez à l'écoute d'RFI dans 30 secondes. Vous avez la parole.
Radio G. 101.5 FM.
Tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après un mois d'absence, la faute à ce satané virus dont je tairai le nom, pour un nouvel épisode donc de Tout compte fait, l'émission qui fait la part belle au compte sur Radio G. 30 minutes pour faire le plein d'histoires et de musique. Pour cette première émission printanière, je vous propose de découvrir Michel Hindenock à travers son travail de réappropriation du conte type Les Trois Oranges, conte très répandu tout autour du bassin méditerranéen dans de multiples variations. Alors Michel Hindenock, il est né en 1946 en Forêt-Noire, en Allemagne. Après des études aux Beaux-Arts de Nancy, il rejoint Paris et commence une première carrière de musicien dans des groupes de musique trad. Il commence à compter à la fin des années 70, puis rencontre Bruno de la Salle en 1982, avec lequel il travaille au Clio. Alors le Clio, c'est le centre de littérature orale, et donc il travaille avec Bruno de la Salle pendant 5 ans. Depuis, il ne cesse de compter, s'accompagnant d'une sitar hongroise et d'une flûte de Pan, ayant à cœur de porter ses histoires et de les transmettre tout au long de son chemin. Installez-vous bien confortablement, puisque tout de suite nous embarquons pour l'histoire des Trois Oranges.
Tout compte fait.
Tout compte fait.
Et il y avait une fois, il y a bien longtemps de cela, une petite maison dans la campagne. Et dans cette maison vivaient le père, la mère et trois garçons. Mais dans cette maison, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Et comme c'est souvent le cas dans ce genre de maison, un jour est arrivé dans le cœur de chacun des garçons un rêve. Et ce rêve, c'était peut-être faire le tour de la terre s'il le fallait, mais c'était partir pour chercher la fortune. Et une fois trouvée, la prendre et puis la partager avec le père, la mère et les deux autres frères. Le temps a passé, les enfants ont grandi et dans leur cœur, le rêve aussi a grandi. Un jour est venu le temps pour le plus grand de partir voir le monde. Alors il a quitté le père, la mère et les deux autres frères et il s'est mis en chemin. Marche aujourd'hui, marche demain, marche 10 ans, 20 ans, 1000 ans. C'est en marchant qu'on fait les chemins. Et bientôt, il est arrivé à un carrefour. Il y avait là, sur le bord de la route, une vieille femme. Elle l'a vue de loin. Elle l'a appelée. Hé, garçon, viens m'aider. Regarde, mon mouton, il est tombé dans le fossé. Il est trop lourd pour moi, hein ? Viens m'aider. Seulement, dans le cœur du garçon, le rêve était tellement grand qu'il avait mangé toute la place. Et il est passé à côté de la vieille sans s'arrêter, sans même voir qu'il y avait là quelqu'un qui lui parlait. En le regardant partir, dans son dos, elle a dit : toi, comme tu feras, tu trouveras. Et au même instant, dans le cœur du garçon, est entrée comme une sorte de fatigue, une lassitude, une envie de tout abandonner et de rentrer chez lui. Et c'est ce qu'il a fait. Il est rentré chez lui, les mains vides, sans rien rapporter. Le temps a passé, les années après les années. Et bientôt est venu le temps pour le second de partir à son tour. Alors il a salué le père, la mère et les deux autres frères et lui aussi il est parti. Marche aujourd'hui, marche demain, marche 10 ans, 20 ans, 1000 ans. C'est en marchant qu'on fait les chemins. Et bientôt, lui aussi, il est arrivé à un carrefour. Il y avait là, sur le bord de la route, une vieille femme. Elle l'a vue de loin, elle l'a appelée. « Hé, garçon, viens m'aider. Regarde, mon mouton, il est tombé dans le fossé. Il est trop lourd pour moi, hein. Viens m'aider. » Seulement, dans le cœur du garçon, le rêve était tellement grand qu'il avait mangé toute la place. Et il a dit à la vieille, « J'aimerais bien, mais je n'ai pas le temps. Je suis pressée. Le grand chez nous, il nous a fait perdre des années. Et moi, maintenant, il faut que je rattrape le temps perdu. Alors demande à quelqu'un qui aura du temps. » Et en le regardant partir, dans son dos, elle a dit, « Toi, comme tu feras, tu trouveras. » Et au même instant, dans le cœur du garçon est entrée comme une maladie, une sorte de dégoût, une envie de tout arrêter et de rentrer chez lui. Et c'est ce qu'il a fait. Il est rentré chez lui, les mains vides, sans rien rapporter. Le temps a passé, les années après les années. Et bientôt est venu le temps pour le dernier de partir à son tour. Alors il a salué le père, la mère et les deux autres frères, et lui aussi il est parti. Marche aujourd'hui, marche demain, marche 10 ans, 20 ans, 1000 ans. C'est en marchant qu'on fait les chemins. Et lui aussi est arrivé au carrefour. Et là, sur le bord de la route, il y avait toujours la vieille. Elle l'a vue de loin. Elle l'a appelée. « Hé, garçon, viens m'aider. Regarde, mon mouton, il est tombé dans le fossé. Il est trop lourd pour moi, hein. Allez, viens m'aider. » Et lui, il n'a pas réfléchi. Il s'est approché. Il a regardé le mouton. Il a mis ses doigts dans la laine. Et le mouton s'est retrouvé sur ses 4 pattes, sur la route. Oh, si tu savais combien d'années j'ai attendu pour que quelqu'un comme toi vienne m'aider. Oh, tu sais, je ne suis qu'une pauvre vieille. Mais je vais te faire un cadeau, lui dit la vieille. Elle s'est retournée et de son sac, elle a sorti 3 oranges qu'elle lui a données. Ah oh ben voilà, je sais, oui, ça n'a pas l'air de grand-chose, 3 oranges. Mais celles-là, elles ne seront pas comme les autres. Il y a quelque chose dedans. Attends pour les ouvrir d'avoir près de toi de l'eau claire, de l'eau que tu boirais toi-même. Mais prends ton temps, tu sais. De ces oranges-là, il n'y en a que 3 pour une seule vie. Alors va, mon garçon, et comme tu feras, tu trouveras. Et le garçon est reparti, avec dans son dos son sac, et dans son sac, les 3 oranges. Il a continué le grand voyage du rêve. Le temps a passé, le temps d'oublier, puis à nouveau le temps de se rappeler. Alors, il a regardé où il était arrivé. Il était sur un chemin de pierre. Il a regardé par terre et il a vu devant lui une flaque d'eau. Il s'est approché. Ah, on pouvait voir le ciel dedans. Oh, elle était belle, cette eau. C'était une eau de pluie, une eau de la nuit. Personne n'avait encore marché dans cette eau-là. Alors, il a pensé que c'était peut-être le moment. Il a sorti du sac une orange. Il l'a ouverte. Et tout à coup, il a vu devant lui une jeune fille. Mais belle, comme jamais il n'aurait pu l'imaginer. Il était tout intimidé. Il n'osait plus parler. Il osait à peine la regarder. Elle lui a dit, « Donne-moi à boire. » Alors il a montré l'eau et la jeune fille s'est agenouillée et de sa main, elle s'est mise à ramasser cette eau et à boire. Elle a bu, elle a bu, elle a bu toute l'eau qu'il y avait là par terre, jusqu'à la dernière goutte. Puis elle a dit, « C'est tout ?»« Ah bien oui, c'est tout. Oh, mais il n'y en avait pas assez. » Puis elle est devenue triste. Elle a commencé à devenir pâle, de plus en plus pâle. puis transparente. Et bientôt, elle avait disparu. Il n'y en avait pas assez. Eh bien, je vais attendre. Et en attendant, je vais continuer le grand voyage du rêve. Et il s'est mis en chemin. Il a marché, marché, marché. Le temps a passé, le temps d'oublier, puis à nouveau le temps de se rappeler qu'il lui restait au fond de son sac deux oranges. Il a regardé où il était arrivé. Sur le bord de la route, derrière les arbres, il y avait une ombre, comme une forêt, comme s'il y avait la nuit derrière. L'ombre qu'il avait vue était celle d'un étang, un étang sombre et profond. Il a regardé l'eau, mais ce n'était pas l'eau qui était sombre. C'était la terre au fond, la mousse, les feuilles des arbres. L'eau était transparente, elle était lisse, silencieuse. Elle attendait. Alors, il a pensé que c'était peut-être le moment. Il a sorti du sac la deuxième orange, il l'a ouverte, et tout à coup, il a vu devant lui une jeune fille, 100 fois plus belle que l'autre. Il était tout intimidé, il n'osait plus parler, il osait à peine la regarder. Elle lui a dit « Donne-moi à boire !» Il a montré l'étang et la jeune fille s'est approchée du bord. Elle s'est penchée sur l'eau et elle s'est mise à boire. Elle a bu pendant des heures et jusqu'au soir. Et toute la nuit. Et au matin, elle avait bu toute l'eau de l'étang, jusqu'à la dernière goutte. Puis elle s'est retournée, elle a dit « C'est tout ?»« Ah ben oui, c'est tout. Oh, mais il n'y en avait pas assez. » Puis elle a penché la tête. Elle a commencé à perdre ses couleurs, à devenir pâle, puis transparente. Et bientôt, elle avait disparu. Comme la première. Il n'y en avait pas assez. Eh bien, je vais attendre et je vais continuer le grand voyage du rêve. Et il s'est mis en chemin. Il a marché, marché, marché. Le temps a passé. Le temps d'oublier, puis à nouveau le temps de se rappeler qu'il lui restait au fond du sac une dernière orange. Alors, il a regardé où il était arrivé. Il était près d'un village. Il est entré, et bientôt sur la place, il a vu une fontaine de pierres blanches. Il s'est approché pour regarder l'eau. Oh, elle était belle, elle était rieuse, lumineuse, elle chantait comme le cristal. Il s'est dit, c'est une fontaine, il y en aura assez. Alors il a pris la dernière orange, il l'a ouverte, et tout à coup, il a vu devant lui une jeune fille, 1000 fois plus belle que les deux autres. Il était tout intimidé, il n'osait plus parler, il ne savait même plus quelle langue il parlait, il osait à peine la regarder. Elle lui a dit « Donne-moi à boire !» Alors il a montré la fontaine, et la jeune fille s'est assise sur la pierre. Et de sa main, elle a commencé à cueillir cette eau qui tombait. Elle s'est mise à boire, à boire. Elle a bu pendant des heures et toute la nuit, le lendemain et toute la nuit suivante et le lendemain encore. Au matin du 4e jour, elle s'est arrêtée de boire et l'eau coulait toujours. Elle a secoué sa main et elle a dit « Tu m'as rassasié. Si tu veux, partout où tu seras, je serai avec toi. » Alors, il était temps qu'il retrouve sa langue, non ? Eh bien, il l'a retrouvée. Et il a retrouvé le mot le plus petit et le plus beau qu'il connaissait dans sa langue. Il lui a dit simplement « Oui ». Et ensemble, ils ont continué le grand voyage du rêve. Ils ont marché, 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 puis ils sont arrivés dans une grande forêt. Et dans une clairière, ils se sont retrouvés devant la façade d'un château blanc. C'était étrange. il n'y avait pas un seul oiseau dans cet endroit. La porte était entrouverte. Ils sont entrés. Au fond de la salle se trouvait une table immense, couverte de pain, de viande, de fruits, à boire et à manger pour des centaines et des centaines de gens. Ils ont appelé. Personne. Alors, ils ont goûté un fruit, puis deux. Ils ont mangé encore. Puis ils ont appelé pour savoir s'il y avait quelqu'un à remercier. Le château semblait inhabité. Il y avait un grand escalier de pierre. Ils sont montés et ils sont arrivés dans une autre salle au fond de laquelle était un grand lit blanc. Ça doit être bon de dormir dans un beau lit comme ça. Ça faisait si longtemps qu'il dormait dans la paille des granges ou dans les champs. Il a regardé et lui a dit « On ose ?» Eh bien oui, ils ont osé. Seulement, le lendemain, quand il s'est réveillé, le garçon ne reconnaissait plus les murs de la salle. Il y avait maintenant autour d'eux des jardiniers, des chasseurs, des cavaliers, des paysans, des serviteurs, des centaines et des centaines de gens. Le plus vieux s'est approché d'eux. « Vous êtes entrés et vous vous êtes servis et vous avez eu raison. Ce château vous attendait depuis toujours. Il était fait pour vous. Vous voici maintenant, prince et princesse, et nous tous qui sommes là, nous sommes à votre service. » Mais alors, c'était ça, le rêve du voyage, la fortune? Il était riche. Il avait un château, des domaines, des gens à son service. Il était prince et il avait la plus belle princesse qu'on pouvait espérer. Qu'espérer de plus? Si, une chose, sa parole. Alors sans attendre, il a confié la princesse aux gens du château et il a dit « Je ne veux pas que le soleil passe sur cette journée sans m'en retourner chercher le père, la mère et les deux autres frères. » Et il s'est mis en chemin. Les jours et les semaines ont passé. Et enfin, on a entendu frapper à la porte du château. Mais quand on a ouvert, ce n'était pas le prince qui rentrait avec sa famille. Il y avait là une vieille femme. Il paraît qu'habite ici une princesse belle comme le jour. Permettez à une pauvre vieille comme moi de voir quelque chose de beau avant de mourir. Elle était sale. Elle avait des yeux méchants. Alors on l'a chassée. Passe ton chemin. Il n'y a rien de bon pour toi ici. Vous me chassez? Mais demandez-lui au moins. Et quand la princesse l'a vue... Oh non, mais laissez-la entrer. C'est une pauvre vieille. On les a laissés seuls. Oh, comme vous avez de beaux cheveux. Permettez à une pauvre vieille comme moi de passer une fois ses pauvres mains dans d'aussi beaux cheveux. S'il vous plaît. La princesse n'avait pas très envie. Bien, si vous voulez. Et la vieille a passé ses doigts maigres dans les cheveux de la princesse. Oh, comme ils sont fins. Est-ce que je peux recommencer? Une fois, si vous voulez. Et la vieille a caressé les cheveux à nouveau. Oh, comme ils sont légers. Est-ce que je peux recommencer? Une dernière fois, alors. Mais cette fois, la vieille a sorti de son épaule une épingle qu'elle a plantée dans la tête de la princesse qui s'est transformée en un oiseau qui s'est envolé par la fenêtre et qui a disparu dans la forêt. La vieille a quitté le château sans bruit. L'instant d'après, quand on est revenu dans la pièce, ne s'y trouvait ni la sorcière, ni la princesse. On a appelé, on a cherché, en vain. Puis un jour, enfin, on a frappé à nouveau à la porte. C'était le prince qui arrivait avec sa famille. Et il a bien fallu lui dire « Prince, il est arrivé un malheur. Une vieille a demandé à voir la princesse. On les a laissés seuls un instant, mais depuis, on ne les a plus revus. » Alors le prince a baissé la tête. Sans répondre, il a gravi les marches de pierre. Il est allé dans la chambre. Il a tiré une chaise devant la fenêtre. Il a posé ses yeux au bout du chemin. Et depuis cet instant, il n'a plus jamais parlé, ni souri, ni mangé, ni dormi. Les jours passaient et le prince devenait pâle. Il perdait peu à peu ses couleurs et on s'inquiétait pour sa santé. On disait qu'il allait se laisser mourir de chagrin. Un jour, le fils du jardinier est allé le trouver. « Prince, prince, chaque matin, il y a un petit oiseau qui vient se poser sur le bord de ma fenêtre. Est-ce que je peux l'attraper ?»« Prince, prince, chaque matin, il y a un petit oiseau qui vient se... »« Fais ce que tu veux !» a dit le prince. Alors tout content, le petit garçon est descendu. Il a attendu le lendemain, il a attrapé l'oiseau, l'a mis dans une cage et puis il a pensé que peut-être l'oiseau lui tiendrait compagnie. Alors il a posé la cage sur une table dans la chambre du prince. Mais lui ne regardait déjà plus rien. Un jour, le chagrin était devenu tellement lourd qu'il a eu envie de caresser quelque chose, n'importe quoi. Le prince a vu la cage, a pris l'oiseau et l'a caressé doucement, mais sur la tête de l'oiseau, il a senti une épingle. Il l'a retirée et la princesse était là, de nouveau, devant lui. Alors, ils n'avaient pas eu le temps de le faire, eh bien ils l'ont fait. Une fête, les amis, une fête, comme on savait les faire au temps où on savait. Ah, on avait fait les choses en grand. On avait convoqué tous les musiciens du royaume et tous les musiciens des royaumes alentours. Ah, ça en faisait du monde. Hein. Et on les a fait monter tous ensemble sur un tonneau pour bien les entendre. Et on leur a dit, jouez tout ce que vous savez faire. On vous prévient, s'il y en a un qui tombe ou qui s'arrête, eh ben on lui coupe les oreilles. Alors, vous pensez, ils ont joué. Et on a dansé, dansé, dansé. Les invités dansaient, les tapis, les armoires, les fenêtres, les cheminées, le château tout entier dansait. Ah, mais si vous savez qu'au bout d'une journée, eh bien, on commençait à avoir faim. Alors, il fallait reprendre des forces. Eh bien, on a fait les choses en grand. On avait convoqué tous les cuisiniers du royaume et tous les cuisiniers des royaumes alentours. On les a enfermés tous ensemble dans les cuisines. On leur a dit, préparez tout ce que vous savez faire et défense de sortir. Hein. On vous prévient, ce qui passera à la porte de la cuisine, on le mange. Alors vous pensez, ils sont restés au chaud et ils ont travaillé. Et de temps en temps, la porte s'ouvrait et on voyait courir des petits cochons rôtis qui traversaient les salles avec la fourchette plantée dans le dos et la sauce à la moutarde qui suivait derrière dans les petites cuillères. Oh, et les gâteaux! On n'avait pas convoqué les pâtissiers, non! Non, c'était les architectes qui avaient construit les gâteaux énormes! On les avait installés dans les plus hautes salles du château, et si on voulait goûter, bah, pas besoin de petites cuillères! Il fallait prendre une échelle, monter à l'échelle et manger! Et si on s'était trompé de gâteau? Eh bien, tant pis! Il fallait continuer à manger pour sortir du gâteau de l'autre côté. Et puis on se laissait glisser le long de la crème pour redescendre. Et alors on allait boire. Et là, mes amis, on avait fait les choses en grand. Il y avait des fontaines de champagne pour les petits et des fontaines de champagne pour les grands. Ha ! On s'est amusé. On s'est amusé 4 semaines, cela a duré. Mais vous savez bien, dans les fêtes, il y en a toujours quelques-uns qui en profitent pour exagérer. Alors, on en a vu qui se tenaient au mur, la main sur le ventre, les yeux rouges. Et on s'est dit, bah, on est là pour s'amuser, hein, mais pas pour se rendre malade. Et on est redevenu raisonnable. Et c'est comme ça que les fêtes s'arrêtent. On s'est reposé, mais quand chacun s'est réveillé, il restait encore une chose à faire. On a mis dans les mains de chacun des invités un bâton. Puis on les a fait se disperser tout autour du château, dans toutes les directions. L'a battue. Et on a bien fini par la retrouver. On l'a attrapée. On l'a attachée. On l'a ramenée. Et on a ordonné au cuisinier d'allumer le plus grand des fours du château. On y a jeté la sorcière. Et on dit que quand elle a brûlé, de la plus haute des cheminées est montée une flamme droite et noire jusqu'au ciel. Et curieusement, quand le feu s'est éteint et qu'on a ouvert le four, à l'intérieur, il ne restait plus rien, ni cendre, ni poussière. Mais sachez que depuis ce jour, rien n'a plus séparé l'amour des trois oranges.
Tout compte fait.
Tout compte fait.
Le titre éponyme du dernier album du groupe normand La Maison Tellier, sorti au début du mois. Tout compte fait, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver dès à présent cette émission ainsi que les précédentes sur le site internet de Radio G à la rubrique de l'émission. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec J'entends des voix. Quant à nous, on se retrouve le jeudi 7 avril à 9h10. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée à l'écoute de Radio G.